sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'émission sur les chemins de la création. Nous sommes ensemble sur Divergence FM et aujourd'hui j'ai le grand bonheur d'être en compagnie de Gillian et Nicholson. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Allez, on va entrer dans cette émission en se présentant. Qui êtes-vous? Que faites-vous?
Allez, j'y vais.
Allez.
Du coup, moi, je m'appelle Nicolas, mais plutôt mon nom d'artiste, c'est Nicholson. Je me produis assez souvent dans les rues de Montpellier. On peut me voir sur la place de la Com ou l'Esplanade à partir de 10h-17h. Et en amont aussi, je travaille avec des artistes, donc trois artistes, Daoshi, Naïs et Saxinature, qui travaille plutôt en Allemagne. Et voilà, c'est un petit peu ça mon quotidien. Je suis musicien, chanteur de rue et voilà. En résumé.
De rue et de scène.
Et de scène aussi.
Mais c'est ton identité première, c'est la rue?
Exact, oui.
Ok, c'est ce que je ressentais quand tu,
oui.
Tu disais.
Cool. C'est là où tout a commencé.
Ok. Et pour toi?
Alors moi, je m'appelle Gillian Barcelot et je suis un artiste contemporain, enfant de cursus scolaire à Montpellier. Et donc du coup, je suis entre Montpellier et Sète, et j'ai déjà travaillé avec un collectif qui s'appelle le collectif La Porte, qui est situé à Sète. J'ai déjà participé à des expositions, mais au sein de mon établissement. Et voilà, je pense que c'est à peu
et
près...
Et tu travailles quoi comme matière, comme support?
Alors, je suis un peu multidisciplinaire. Je travaille autant la performance que la vidéo, que le son, que le volume et le dessin. Je fais pas beaucoup de peinture, mais j'ai quand même une pratique peinture. Mais je travaille vraiment tout, un peu tous les médiums, quoi.
Ok, du coup, tu t'identifierais comme plasticien. Ouais. Couteau suisse,
oui, voilà.
Multifonction.
C'est un peu ça, oui.
Est-ce qu'il y a un mot que tu utilises comme ça pour ce fourre-tout? Parce qu'il y a tellement de catégories qui rentrent là-dedans que...
Moi, je dis multidisciplinaire.
Ok.
Mais c'est vrai que voilà, ça peut être couteau suisse.
Multidisciplinaire. Yes, trop bien. Merci. Alors, comme d'habitude, on va remonter à la source et on va nager à contre-courant. Pour remonter à la source, et on va aller s'interroger sur le moment où la création entre dans vos vies, respectivement. Est-ce que vous vous souvenez de ça? De quand est-ce que...
J'y vais. Allez.
Allez.
J'y vais, j'avoue, le sujet est très intéressant pour moi. J'ai commencé à vraiment m'intéresser au niveau de la musique et apprendre au niveau de la musique par rapport à un jeu vidéo. C'est fou, mais je crois que j'avais à l'époque... 14, 15 ans, aujourd'hui j'en ai 37, donc ça date. Et j'ai écouté un petit peu ce style drum and bass, je ne sais pas si vous connaissez, un peu rapide, batterie énervée. Et moi, je n'avais jamais entendu ça musicalement, j'écoutais que des trucs culturels de chez moi, ou un peu de la pop ou de la rock. Et c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié la musique, je me suis vraiment axé, j'ai commencé à créer vraiment au niveau de... Ben, du téléphone, le Nokia 3310, je ne sais pas si vous connaissez.
Ah oui, oui, oui.
Il y avait une petite fonction à l'extérieur qui permettait de créer. Donc, j'ai commencé à créer
ça.
J'étais, oui.
Je me rappelle que du serpent, là.
Oui, c'est Snake aussi. Ouais, je jouais beaucoup. Mais du coup, quand vous fouillez un peu, vous pouvez trouver de belles choses, pas mal. Donc, j'ai eu cette curiosité de fouiller. Et j'ai commencé à créer de la musique à travers ça, à travers des logiciels de musique. Et c'est comme ça que tout a démarré pour moi.
Donc, c'est une musique dans un jeu vidéo qui t'attrape à l'adolescence?
Oui.
Et ça t'emmène
vraiment
vers
dans
la création.
Exactement. C'est là que je me suis dit, mais c'est pas, il y a pas de limite. Je me suis dit, mais c'est pas possible.
Ok.
Ouais.
Wow. Ok. Et toi, Gillian?
Moi, je dirais que ça a commencé avec une vision un peu de l'art contemporain assez classique où j'allais dans des musées, etc. Je me suis beaucoup intéressée à l'art dans sa généralité. Et je dirais qu'au fur et à mesure des années, mes inspirations et en tout cas ce qui génère la création chez moi, c'est vraiment pareil, enfin, c'est un peu multi-ressources, en sachant que bon, j'ai déjà fait des études de littéraire. Et donc du coup, par exemple, ça peut être autant des textes qui vont me permettre de générer tout un univers, etc., autant que les jeux vidéo, autant que les films, autant que toujours les expositions finalement. Mais je vais faire en sorte de match-up de toutes ces inspirations pour pouvoir justement générer quelque chose d'assez personnel et je dirais... je cherche mon mot... singulier.
Ok.
Voilà.
Ok, et du coup, donc t'étais bercée dans les expos, t'avais accès à ça?
Alors, pas tant que ça, parce que moi, à la base, quand même, je viens d'un milieu social qui n'est pas forcément, justement, axé musée, culture, etc. J'ai des parents qui sont quand même plus issus d'une culture ouvrière. Mais je dirais que c'est plus mon intérêt à moi personnel qui m'a poussé à aller vers toute cette culture-là et à m'en nourrir et à vraiment m'en imbiber pour pouvoir recracher tout dans mes pièces.
Ok, et à quel moment... recraches une pièce pour la première fois, est-ce que tu saurais nous raconter?
Je dirais que la toute première fois où j'ai vraiment eu l'impression de faire une pièce d'art, c'était à ma prépa à 7, où du coup ça m'a un peu justement lancé dans un processus créatif, et là c'était une activité, donc on devait faire en fait un projet à plusieurs, donc il y avait cette question aussi de générer à plusieurs, c'était assez compliqué. Mais je trouvais ça intéressant justement parce que ça a fait en sorte de match-up de toutes nos idées et ça m'a permis de faire des choses que je pensais pas en fait pouvoir faire, je dirais. Et donc du coup, c'était vraiment une sorte de module installation entre des jeux de lumière et du dessin et du graphe. Enfin, c'était un peu un mélange de tout ça. Donc ça, c'était un peu ma première pièce, en tout cas, que j'ai fait au Beaux-Arts.
C'est la formation, en fait, le cursus plutôt scolaire qui t'a amené à ça.
Je dirais oui, entre guillemets, mais c'est vrai que, justement, ça m'a poussé vers cet univers-là, en tout cas, ou vers ce monde-là. Mais j'ai vraiment en fait développé mon propre univers quand je suis rentré au Beaux-Arts de Montpellier. Je dirais que la prépa, ça m'a permis en fait de m'ouvrir un peu plus l'esprit sur justement les médiums, etc. et les pratiques de création artistique.
Et de trouver des choses qui te ressemblent et
oui.
Où tu peux mettre ta singularité quelque part.
Oui, c'est ça.
Ok. Super. Nicholson, quand tu parlais au tout début de l'émission du rapport à la rue et tu dis tout, c'est vrai que ça commence par la, enfin, ton identité est une identité de rue. Comment on passe du vieux Nokia qui te sert à créer d'après une musique de jeu vidéo à je fais du son dans la rue?
C'est une bonne question, oui. À vrai dire. Je suis resté très longtemps à ne pas trop croire en moi, ni en ma musique, ni en ce que je faisais au niveau de l'art. Parce que j'ai pu faire un peu de dessin, mais c'était vraiment que par curiosité. Mais la musique restait le principal moyen pour moi de m'exprimer, de pouvoir baisser cette curiosité, calmer cette curiosité. Et donc par la suite, ça fait à peu près un an et demi que je suis artiste de rue du coup. Et à la base, j'accompagnais des artistes à la guitare. Donc, dans le processus entre mes 15 ans et mes 37 ans, j'ai joué de la guitare, mais vraiment pour moi, tout seul, chez moi. J'étais vraiment en mode solitaire, à prendre mon plaisir pour moi-même, jusqu'au moment où j'ai vu que c'était agréable aux yeux de ma famille et de ceux qui m'écoutaient. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, par la suite, je suis allé dans la rue, en quelque sorte. Ça fait un peu bizarre de dire ça. On aurait dit un Pokémon que t'envoies un peu de part. Je suis allé dans la rue et voilà, c'est là que j'ai commencé à prendre de l'assurance au niveau de moi-même aussi. C'est pour ça que je parle de la rue comme pour moi un point de départ. C'est là où j'ai vraiment appris à connaître mon rapport au niveau des autres, me connaître, connaître l'art, mais aussi l'art direct, avec les gens en contact qui viennent me donner leur s'ils sont contents ou pas, directement ils viennent me voir. Et voilà, c'est pour ça que j'ai affirmé que pour moi, ça reste une... voilà, c'est un peu l'essence même de ce que je deviens et ce que je suis devenu.
Oui, je comprends. Moi, d'une manière très personnelle, je pense qu'il n'y a rien de plus formateur que la rue.
Oui, clairement.
Et je comprends ça. Est-ce que la rue, ça t'évoque quelque chose quand tu parles d'expo, peut-être d'espace public, de structure dans l'espace public? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que de ton côté, Gillian, ça te parle, cette notion de rue, de proximité avec les gens, avec la vie, avec tout? Parce qu'en fait, dans la rue, il y a tout, quoi.
Clairement.
Alors, je dirais que... oui, enfin moi personnellement, dans mes propres problématiques internes, c'est un peu des questions que je me pose et que je me suis posée en fait justement à partir du moment où je suis arrivé à Montpellier, en me demandant pourquoi en fait forcément avoir des espaces muséales un peu liminales, white cube, blanc. Enfin bon, j'ai remis un peu ces espaces en question en me disant, est-ce que mes pièces pourraient pas exister finalement sans cet espace-là et juste dans la rue? Moi, en vrai, j'aimerais bien, mais en termes de politique, je crois qu'on n'a pas le droit, en fait, d'afficher, je me suis un peu renseigné, donc ce serait un accrochage un peu anarchiste qui serait pas...
pas pérenne, pas...
Oui, voilà.
Oui.
Mais en même temps...
Qui pourrait être enlevé à tout moment, en même temps.
Oui, voilà. Mais en même temps, je trouve que cette notion-là est très intéressante.
Carrément.
Je ne l'ai pas encore exploitée dans mon travail, mais c'est vrai que même sur des questions de performance, on a plein d'artistes qui ont déjà fait ça. Je sais qu'il y en a un auquel je pense, c'est Steven Cohen, qui est un artiste qui fait des performances très exubérantes, à la limite du drag, mais dans la rue, à moitié dénudé, et ça a beaucoup, par exemple, choqué les personnes. Il s'est fait arrêter plusieurs fois dans la rue pour faire ces performances-là. Donc, il y a un autre enjeu, du coup, un peu plus politique qui rentre en jeu quand on se pose ces questions-là, à se demander est-ce que on va se faire arrêter par la police ou est-ce que...
Au nom de l'art, quoi.
Oui, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est des notions qui m'intéressent dans ma pratique... Et c'est vrai que même au niveau des matériaux que je récupère, la majorité du temps, ils se trouvent dans la rue, dans les poubelles. Et justement, j'aime bien leur redonner une nouvelle vie, un peu plus de préciosité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais leur donner une visibilité différente qu'un déchet.
Mmh. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ?
Ben oui, j'admire beaucoup ça. Pourquoi ? Parce que moi-même, étant dans la rue assez souvent... quand je joue, je peux voir, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir de tous les stats sociaux, riches ou pas riches, et qui n'ont rien, qui n'ont pas rien. Et souvent, je remarque que les personnes qui prêtent attention à la rue, quand je dis à la rue, c'est-à-dire tout ce qui est l'ensemble, les gens qui marchent, les gens qui prêtent attention à ce qui sont autour d'eux, généralement, c'est des artistes. C'est-à-dire qu'ils se présentent, ils veulent danser, ils veulent présenter quelque chose, ils veulent montrer quelque chose. Donc, ce que tu disais, vraiment, c'est important parce que moi, j'ai pu voir des artistes aussi prendre des choses, ils viennent me voir, on parle, on partage par rapport à la rue. Et souvent, les gens, même quand on parle de rue, la rue, on imagine quelque chose de sale, quelque chose de honteux ou ce genre de choses, alors que la rue, tout le monde, nous tous, on marche dans la rue. Et notre différence, c'est souvent juste ce qu'on a dans les poches et c'est rien d'autre. Sinon, au niveau de l'art et au niveau de ce qu'on est, nos souffrances... on vit à peu près tous la même chose, on a tous les mêmes besoins.
Carrément. Est-ce que tu voudrais nous faire écouter plutôt, nous partager ce que tu peux chanter dans la rue ou ailleurs?
Oui, bien sûr. Je vais vous interpréter un morceau de Benny King, Stand By Me. Sûrement vous connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les plus jeunes, je vous invite à aller rapidement checker ce morceau parce qu'il est indémodable.
When when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me, stand by me. With the sky shall we look upon, should tumble and fall, all the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
Merci beaucoup, Nicholson.
Merci à vous.
Merveilleux, ça m'a posé.
Merci.
Ça fait vraiment du bien. Merci de ce partage. Du coup, j'ai juste envie là actuellement de dire encore, vas-y, tu peux me bercer, s'il te plaît.
Merci.
J'ai plus de questions, j'ai plus. L'émission s'arrête ici.
Au revoir à tous.
Non, allez, on va repartir après cette petite pause musicale qui fait un grand bien. Et on va repartir sur les choses que ça raconte, parce que là ça m'évoque, il y a une chanson, il y a des paroles, et c'est un truc indémodable en plus, comme tu l'as si bien dit, vraiment ça traversera tous les âges, ça peut pas crever ce titre là. Du coup, il y a du sens, il y a des paroles, ça raconte des choses, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous tient à cœur de raconter, en fait. Pourquoi vous, dans ce que vous créez, parce qu'évidemment que ça raconte des choses, et comment vous faites pour les raconter?
D'accord. Je commence?
Allez.
Bon, allez, j'y vais. Du coup, bon, ce morceau, déjà, c'est un morceau, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est mon père qui l'écoutait souvent. Il m'avait toujours marqué, mais je comprenais pas l'anglais à l'époque. Donc c'était juste la voix, le mood, un peu l'atmosphère un peu nostalgique. Jusqu'au moment où je tombe sur les paroles, et là je me dis, ouais, c'est quand même profond. C'est des paroles qui nous concernent tous. Ça parle d'un homme qui vraiment aime sa dulcinée et qui dit, voilà, je serais prêt à rester pour toi, quoi, parce qu'il n'y a que toi, au fait, qui est la lune, qui est les tonnerres. Enfin, c'est à peu près les mêmes choses de ce qu'on entend, mais ça nous concerne tous, même si on ne l'exprime pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que les artistes sont là, c'est qu'ils sont là pour un peu, comment dire, exprimer les choses qu'on a du mal à dire, en quelque part. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée.
Ce serait une espèce de planque, l'art où on peut se permettre de dire les choses.
Exactement, là où on sentirait peut-être parfois qu'on a du mal, mais on peut dissimuler, je n'aime pas trop dire dissimuler puisque c'est exposé, mais dissimuler sur autre chose, l'art, la danse ou le dessin ou la sculpture ou même l'écriture, c'est une manière d'exprimer ce que nous peut-être on ressent et que d'autres ressentent certainement et qui pourront parler à d'autres personnes, ouais. Toucher des personnes.
Il y a plusieurs couches subtiles.
Exact.
Est-ce que ça te parle, ça, dans ce que ça raconte, les couches subtiles de l'art?
Je suis assez d'accord. C'est vrai que du coup, ça nous permet d'aborder des sujets qui peuvent être parfois assez durs à aborder. Moi, je m'y reconnais beaucoup, en tout cas, dans ma pratique. Je sais que j'aborde des sujets qui, même des fois pour moi, sont assez durs en fait, à supporter lors du processus de création. Parce que, justement, j'en parlais tout à l'heure, je disais que moi, quand je crée, je donne une partie de moi, un bout de mon histoire aussi. Du coup, je vais peut-être passer aussi par la fiction, pour une sorte de fiction un peu spéculative qui permet de mieux avaler la pilule. Mais c'est vrai que du coup, je m'intéresse beaucoup à plein de choses. Moi, je sais que, par exemple, la politique, ça me fait beaucoup d'angoisse. Ce que je vois aux actualités, ça crée beaucoup d'angoisse chez moi. Et en même temps, paradoxalement, c'est aussi une sorte d'engrais qui nourrit vachement toutes mes créations. Il y a souvent des messages, en fait, je me rends compte, qui sont sous-jacents à ce que je fais et qui parlent, en fait, de tous ces sujets-là, des crises, des guerres, de plein de choses comme ça, où, globalement, dans mon travail, je parle beaucoup de marginalité très généralisée, de sororité aussi, donc du coup, c'est pas que négatif, mais... C'est vrai que ça permet d'aborder des sujets dont on a du mal, je pense, à parler dans une vie quotidienne, quoi.
Carrément. Et du coup, est-ce que tu te dis en premier, j'ai envie de parler de ça ? Ok, comment je vais arriver à parler de ça ? Ou est-ce que tu rassembles un truc là qui t'évoque quelque chose, un autre truc, et puis ça se construit pour arriver à parler d'un sujet en particulier. Elle est comment ta construction ?
Je pense que... Ouais, c'est vrai qu'en fait, souvent, je prends un sujet. Par exemple, là, très récemment, j'ai regardé beaucoup de reportages sur les camps de conversion. Et pour moi aussi, c'est une sorte d'écho aussi à un système assez américain. On voit souvent ces camps de conversion qui survivent, entre guillemets. On en voit d'ailleurs toujours à l'heure aujourd'hui en Amérique. Et pour moi, par exemple, je vais prendre ce sujet-là et l'emmener dans une fiction où, par exemple, il va avoir une nonne qui, elle, va représenter une sorte de forme d'autorité, va exercer une sorte de pouvoir, mais en même temps, je sais pas, d'un coup, dans ma fiction spéculative, elle va aider une personne qui fait une performance de genre à accoucher d'un fœtus alien. Donc c'est, oui, un peu en sorte de micmac de plein de choses qui s'agglomèrent et forment une sorte de théorie presque conspirationniste. Je sais pas, oui, à peu près ça, quoi.
Carrément, mais du coup, tu pars... T'as déjà ce thème en tête, et puis il y en a d'autres qui viennent se greffer, oui, et voilà. Ça t'emmène... tu crées, et puis ça t'emmène dans des endroits où t'avais pas décidé...
Oui, je dirais presque que c'est des endroits intérieurs qui, je pense, pourraient être dans tout un chacun, de doutes, de peurs... par rapport à plein de sujets, effectivement, c'est des agglomérés de plein de problématiques... qui se retrouve dans un seul projet où la plupart du temps c'est ça. Enfin, c'est vrai que je vais me nourrir de plein de choses que je vais voir et qui vont au fur et à mesure s'agglomérer et je trouve de la pertinence à ça et je me dis ah bah oui c'est ça et donc du coup c'est dans ça qu'on doit aller, c'est ça que je dois faire.
Du coup tu y mets de ton identité dedans, des choses qui te... Et c'est quoi la nécessité de mettre... Enfin, quelle est cette nécessité d'aller prendre les choses qui sont hyper comment dire, hyper intense, hyper enfin c'est le fuego quoi qui sont en feu à l'intérieur, les choses qui nous animent, qui nous font vivre comment ça se fait qu'on a tant besoin de recracher ça à l'extérieur avec une forme, que ce soit en musique, que ce soit en art plastique ou dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi nécessaire, quoi ? Est-ce que si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous devenez si vous n'avez pas ça, par exemple ? À quel point c'est nécessaire pour vous ?
Bon, allez, j'y vais. Vraiment, pour moi, du coup, vraiment, c'est un passage important de pouvoir s'exprimer. Du coup, par la musique et par le chant, cette nécessité vient vraiment du fait que quand on souffre, parce que nous tous on souffre, hein. On a tous nos souffrances plus ou moins grandes ou mauvaises, nos appréhensions par rapport à ce monde, comment on voit comment il tourne, et ça peut être très, très court aussi le chemin, ça peut même être au niveau de notre famille et même au niveau de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à s'accepter. Aussi, la souffrance peut être de différentes formes et de différents lieux, ça peut venir de différents endroits, mais pour nous, je dirais peut-être en tant qu'artiste, la façon dont on le reçoit, on peut le recevoir souvent très fortement, alors que peut-être que d'autres le prendraient, la souffrance, oui, elle serait là, mais peut-être qu'ils ne trouveraient pas une manière de substantialiser cette souffrance ou bien de la rendre, de lui donner une forme, que ce soit physique concrètement ou pas. Et je pense que c'est une manière vraiment pour nous, dans ce feu-là, comme tu disais, de pouvoir trouver une solution pour l'enlever, mais pas forcément l'enlever, parce que cette souffrance nous apprend et elle permet qu'on se connaisse, quel que soit le domaine dans lequel qu'elle tombe. Et nous, en tant qu'artistes, notre défi, et qui est un peu notre besoin, c'est de vraiment pas la faire sortir, mais la communiquer pour qu'elle soit comprise pour nous et pour ceux qui l'entendent ou la voient.
Du coup, ça serait la nécessité de transformer la souffrance quelque part, d'en faire quelque chose. D'en faire quelque chose.
Après, le choix vient de l'artiste dans l'instant présent, comment il ressent la chose, que ce soit par un chant ou quelle que soit la chose, ou même par le côté triste ou par le côté joyeux. Il y en a qui peuvent, de cette souffrance, créer quelque chose de joyeux aussi, de bénéfique. Bon, je ne dis pas que l'art n'est pas bénéfique, mais bénéfique dans le sens que ça pourrait apporter du bien-être.
Mmh.
Et la tristesse, la mélancolie, du coup.
Carrément. Et de ton côté, qu'est-ce qui se passe si tu ne crées pas? Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça te permet des transformations?
Je pense que oui, c'est assez vital. Et effectivement, je pense que ça permet une transformation. C'est-à-dire que moi, je me suis trouvé aussi à travers mon art. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je me considère comme une personne non-binaire. Et je trouve que ça m'a permis aussi de me trouver, parce que comme on disait, il y a une sorte de mal-être interne qui n'est pas forcément tout le temps retranscrit sous forme de mal-être ou de traumatisme. Ça peut être aussi justement de l'empowerment de ces questions-là et de les prendre ces questions et de dire « bon, ben moi je vais en faire justement une force et revendiquer d'autres choses ». Ou des fois ça peut être juste des sujets mis à plat. Je sais que moi je fais beaucoup ça parce que, par exemple, dans ma réflexion personnelle, il y a des choses dans lesquelles moi j'arrive pas à me projeter, un futur lointain, etc. Et donc j'aborde beaucoup de sujets dystopiques, futuristes. C'est vraiment des sujets qui reviennent souvent dans mes pratiques, la question du vivant, etc., qui pour moi est assez important. Et donc c'est vrai que j'aurais peut-être l'impression de ne pas faire ce que j'aime et d'être vraiment très très malheureux si j'avais pas ces processus de création. J'ai pas l'impression de pouvoir correspondre à un profil de travail classique et j'ai besoin justement de générer des choses par rapport à mon expérience et de dialoguer avec les personnes qui vont être en contact avec ce que je propose. Donc oui, je pense que c'est à peu près ça.
Et c'est intéressant parce que on parlait de cette espèce de sensibilité, de souffrance ou de joie qu'on a envie de retranscrire à l'extérieur, mais toi tu parles aussi d'interrogation sur le futur notamment, et sur des choses un peu existentielles, j'ai l'impression. Mmh. Du coup, ça vient aussi de nos émotions, de notre sensibilité, mais aussi de nos interrogations.
Oui, de nos doutes.
Nous, carrément. Waouh. Bah écoutez, on va aller doucement sur la fin de cette émission. En tout cas, c'était un vrai bon moment de partage et je vous remercie beaucoup pour ça.
Merci à toi.
Oui, merci à vous.
Avec grand plaisir. Et puis, on va donner juste un seul mot, le mot de la fin, pour exprimer votre rapport à la création. Un mot. On a le droit de changer d'avis demain, comme ça.
Un mot.
Ouais.
Je dirais amour.
Amour.
Waouh.
Amour pour Nicholson.
J'aime trop l'amour.
faut que je trouve bien mon mot parce que...
T'as le droit de changer d'avis demain et t'as le droit de dire une grosse connerie, genre parapluie ou... Ah. Tu vois, ça c'est bienvenu aussi. Hein.
Ah oui,
pas de pression.
J'en aurais besoin sûrement après.
Je dirais... je sais pas, l'émancipation.
Émancipation, trop bien. Bah, merci beaucoup, Nicholson, si tu veux nous jouer un petit quelque chose pour nous dire au revoir et que l'émission s'éteigne sur tes notes de musique, c'est avec grand plaisir.
Ça marche.
Alors, j'ai eu l'idée de faire Toy Story, du coup, pour un petit peu de joie, un petit peu de bonheur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder le film, avec ou sans vos enfants, si vous en avez. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the world looks overhead in your eyes, and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pearl said. You've got a friend in me. 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 You've got trouble, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and can see it true. So you've got a friend in me. You've got a friend in me.
Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.